Vous écoutez RTL.
RTL Matin, 7h43. Yves Calvi, votre invité ce matin, vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier.
Oui, ma camarade Elisabeth Martichoux est en souffrance, c'est moi qui vous accueille ce matin, Guillaume Pelletier, merci d'être avec nous. D'abord, on va parler de l'actualité immédiate et des routes françaises, c'est l'actualité du jour. Avec cette information RTL, le gouvernement souhaite sanctionner plus durement l'usage du portable au volant. Cela pourrait aller jusqu'à la suspension du permis de conduire. Qu'en pensez-vous ?
J'y suis pas opposé. Moi, je partage la volonté de tous les gouvernements, et particulièrement de celui-ci, de vouloir lutter contre les excès, les dangers et la mortalité sur les routes françaises. Je dis juste à ce gouvernement, attention, de ne pas céder l'essentiel à l'accessoire.
C'est-à-dire ?
Et de ne pas en permanence choisir des mesures gadget et marketing très révélatrices de la politique de M. Macron, qui ne s'attaque jamais aux causes profondes d'un problème. Quel est le problème, Yves Calvi, prégnant sur la question de la mortalité sur les routes ? Il y a bien sûr les attitudes à risque, comme celles que vous avez citées. Il y a aussi les conduites sans permis, sans assurance, sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants. Et plus grave même, c'est un élu du monde rural qui vous le dit, en parlant des 400 000 km de routes secondaires, pour lesquels le gouvernement veut imposer, vous savez, la limitation à 80 km/h, avec un entretien qui, ces dernières années, laisse à désirer. Moi, je demande au gouvernement, sur cette question-là, de prendre le temps et d'apporter une addition de solutions profondes et concrètes plutôt que des solutions marketing.
Guillaume Pelletier, le nombre de morts sur les routes augmente sans discontinuer depuis 2014. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème ?
Oui.
Qu'on doit y apporter des réponses ?
Oui.
Et vous pensez que les deux qui sont suggérés, qui vont être annoncés ce matin, en l'occurrence, la baisse à 80 km/h et notamment le fait de sanctionner beaucoup plus durement l'usage du portable, ne sont pas suffisantes, c'est bien cela ?
Sur la question du portable, je soutiens la position du gouvernement. Sur la question des 80 km/h, absolument pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un débat sur la question de faut-il réduire ou pas réduire. Le Danemark a augmenté de 10 km/h, mortalité en baisse de 13%, par exemple. On attend d'ailleurs toujours de la part du gouvernement la présentation des résultats de l'expérimentation des deux dernières années, 2015-2017, dans Lyon ou la Nièvre, par exemple. Et moi, je propose quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord, sur les conduites à risque, je souhaite, par exemple, l'installation d'éthylotests antidémarrage obligatoires pour ceux qui seraient pris, par exemple, sous le coup de la récidive pour la conduite sous l'emprise d'alcool, d'une part. Je souhaite la création d'une véritable police spécifique de la route qui, en permanence, pourrait juger et surveiller et contrôler les conduites à risque. Et mieux, Yves Calvi, je vais beaucoup plus loin. Je souhaite une refonte complète et un aménagement beaucoup plus sécurisé des routes secondaires. Comment ? Parce que ça coûte cher. Je souhaite que le gouvernement ait l'audace et le courage de proposer la taxation exceptionnelle des grandes sociétés d'autoroutes. Les prix des péages ont augmenté de 20% ces 10 dernières années. 1,5 milliard de dividendes ont été versés en 2016 aux actionnaires des grandes sociétés d'autoroutes. Ces profits sont inconsidérés et je souhaite que le gouvernement français ait le courage d'aller au bout de sa logique. Oui, nous voulons lutter contre la mortalité sur les routes et par conséquent, nous voulons une addition de mesures concrètes et crédibles.
Vous venez de nous annoncer une mesure d'addition concrète et crédible. Très bien. En tout cas, on peut en débattre. Je vous fais juste remarquer que les différents gouvernements de droite qui sont succédés à la tête de notre pays et que vous avez soutenu n'ont jamais pris ces mesures. Vous en êtes conscient ?
Totalement conscient. Je n'étais ni ministre ni parlementaire.
J'entends
et je
bien.
Veux une droite nouvelle avec Laurent Wauquiez qui ne réitérera pas les erreurs du passé.
On tourne une page, l'actualité est riche ce matin. Le maire Front National, Julien Sanchez de Beaucaire dans le Gard, a interdit les menus de substitution dans les cantines. 150 élèves sur 600 bénéficiaient de ces menus. En clair, il impose donc le port dans ces menus. Quelle est votre réaction, Guillaume Pelletier ?
On ne joue pas avec la laïcité pour faire de la provocation politique. Je suis opposé par principe au menu confessionnel, parce que je crois profondément à la laïcité. Pour autant, faire des annonces comme ça un jour de rentrée scolaire, ça me semble brutal et inopportun. Et ce n'est pas le sens de ma conception, très claire pourtant, de la laïcité.
Non mais est-ce qu'on peut servir du porc dans des cantines à des petits musulmans ? La question, elle est aussi simple que ça.
Je viens de vous répondre. Je ne souhaite pas que la République cède à des comportements communautaristes, quels qu'ils soient.
Mais est-ce qu'on nourrit les enfants ? C'est ma question.
Mais pour autant, vous savez très bien qu'il existe. Et je fais confiance à la plupart des maires de mon pays. J'ai été maire moi-même en Sologne. On peut très bien régler ça par à la fois la fermeté, la clarté et la négociation. Il existe, par exemple,
Ça veut dire menus, peut-on être concret alors
bah, il existe pas. Donc il y a les menus traditionnels, ouais. Et il peut exister dans des cas spécifiques, par exemple des menus végétariens qui ne blessent et ne heurtent personne. La République ne se négocie pas, la laïcité ne se négocie pas, mais il n'est pas interdit au maire, ici ou là, en fonction de cas spécifiques, de s'organiser intelligemment.
Bon, ce qui vient de se passer à Boca, vous pensez que ça rajoute de l'huile sur le feu et qu'en fait, on utilise la laïcité comme une arme politique dangereuse?
C'est exactement ce que je viens de dire.
Parlons de l'immigration. 100 412, c'est le nombre des demandeurs d'asile cette année en France. Un chiffre en hausse de 17% par rapport à 2016. Vous allez voter le projet de loi immigration du gouvernement?
Moi, par principe, je suis un homme pragmatique. Je suis un homme politique et je souhaite plus que tout la réussite de mon pays et donc de ce gouvernement. Pour autant, là encore, sur la question de l'immigration, comme sur la question de la sécurité routière, nous sommes dans les déclarations de principe et les effets d'annonce. Yves Calvi, quel est le grand sujet sur la question des migrations? Le grand sujet, c'est la pauvreté et la misère dans les pays du Sud. 1 milliard d'Africains aujourd'hui, 2 milliards à l'horizon 2050. Je propose, de manière très audacieuse et inédite, la création d'un grand plan Marshall au niveau européen, d'un grand service civique universel pour tous les jeunes européens, pour s'emparer d'un grand sujet, le co-développement des pays du Sud. Rien ne se réglera, rien. Aucune loi française, ni même européenne, n'apportera une solution pérenne à la question centrale de l'immigration sans s'attaquer à la cause du problème.
Et qu'est-ce que la jeunesse européenne vient faire là-dedans?
La jeunesse européenne, tous les pays de l'Union européenne pourraient, avec notre expertise, nos expériences, des moyens financiers, des partenariats inédits avec chacun des pays d'Afrique, s'engager dans un développement sur l'éducation, sur la santé, pour permettre à la plupart des Africains de rester en Afrique. Personne ne souhaite le déracinement. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui a existé. Vous savez, Kennedy, en 1961, a inventé le corps de la paix.
Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. C'est donc bien un corps, en tant que tel, quasi-militaire, de jeunes Européens.
Pas du tout, c'est civique.
Bon, très bien, mais de jeunes, je veux dire, ils sont formés.
Exactement.
Et ils vont travailler dans les pays du Sud,
ce plan Marshall,
pour les aider au développement.
Voilà, ce plan Marshall, c'est deux choses. C'est d'abord un investissement très concret, avec contrepartie, par exemple sur la démocratie, bien sûr, des pays de l'Union européenne, avec des partenariats, des parrainages à égalité avec nos amis africains, d'une part, et deuxièmement, un engagement de la jeunesse européenne, qui ainsi pourrait se réconcilier d'ailleurs avec le bel idéal européen, sur un modèle qui existait. 200 000 Américains dans 139 pays, depuis 1961, ont participé à des actions de co-développement à travers le corps de la paix créé par Kennedy.
Parlons des Républicains et de votre parti. Vous formez avec Virginie Calmels un couple de vice-présidents qu'on peut trouver étonnant, car assez politiquement éloignés l'un de l'autre, en tout cas jusqu'ici. Virginie Calmels, c'est la caution libérale de Laurent Wauquiez, et vous êtes la caution souverainiste?
Je pense que c'est un peu plus subtil que ça. D'abord, on travaille bien ensemble, et moi je suis très heureux de faire équipe avec Virginie Calmels, avec Damien Abad, autour de Laurent Wauquiez. Bien sûr que nous n'avons pas la même sensibilité.
Est-ce que les deux lignes que vous avez fait vivre très longtemps, elles peuvent se réconcilier miraculeusement sous la présidence de Laurent Wauquiez? Vous comprenez ce que je veux dire?
Bien entendu.
Et voir cohabiter, tout simplement.
C'est tout l'objectif.
Pour qu'on sache où est notre droite française.
D'abord, nous avons un certain nombre de points communs. Oui, nous n'avons pas la même approche sur les questions économiques. Mais moi, je suis favorable.
Et européenne, ce qui est le plus important, c'est la prochaine échéance électorale, Guillaume Pelletier.
Je vous donne un exemple sur l'économie. Je suis avec Virginie Calmels et tant d'autres d'accord pour une grande réforme des retraites, une réforme du syndicalisme français. Je veux rassurer là-dessus. Mais oui, moi, je porte, et c'est ce que m'a demandé aussi Laurent Wauquiez en tant que vice-président, je porte les aspirations des classes moyennes, de la majorité silencieuse. Je souhaite que la droite française redevienne, ou devienne plus exactement, un grand mouvement de la France populaire et rurale, et que nous nous adressions enfin à cette majorité silencieuse, à ces Français qui ne réclament jamais rien et à qui on demande toujours tout, qui sont pénalisés par toutes les politiques publiques et qui attendent une droite du quotidien, une droite des solutions crédibles. Sur la question européenne...
Merci d'y répondre.
Sur la question européenne, je souhaite que la droite française invente une troisième voie qui ne sera ni celle des étriqués de l'hostilité à l'Europe et de la sortie de l'euro, ni celle de la béatitude absolue de la technocratie bruxelloise.
Pardonnez-moi, il est où l'équilibre là-dedans?
Ah ben l'équilibre, vous allez le voir, c'est l'Europe du pragmatisme. Sur la question de l'immigration, par exemple, c'est la création d'un grand plan Marshall, comme je viens de le dire. Sur la question du commerce ou de l'économie, c'est une Europe qui assume son patriotisme et sa protection commerciale pour nos agriculteurs, pour nos ouvriers, pour nos industries, pour nos usines. Les Chinois se protègent, Emmanuel Macron est bien le placé pour le savoir, il y est en ce moment, les Américains se protègent, les Sud-Américains se protègent, l'Europe doit protéger nos intérêts stratégiques et vitaux. C'est un point d'équilibre, c'est ni la béatitude européenne, ni l'hostilité à l'Europe. C'est une vision alter-européenne. Nous voulons sauver l'Europe et pour la sauver, il faut la changer.
Mais une vision alter-européenne, il n'y a pas de miracle en matière d'Europe. C'est soit on avance, soit on recule. Et vous nous dites qu'il y a un point d'équilibre à trouver.
On avance.
Je
vais vous dire.
Si ce n'est par exemple en ayant des accords budgétaires avec nos partenaires allemands et en allant plus loin, dans une forme d'intégration, qu'on le veuille ou non.
Mais ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous raconte ça, et ça fait 30 ou 40 ans que ça ne marche pas. Il y a une montée des nationalismes, une montée des inquiétudes. Est-ce que l'Europe nous protège? Est-ce que l'Europe connaît le plein emploi? Est-ce que l'Europe connaît une croissance exceptionnelle? Non. Pourquoi? Parce que la technocratie a remplacé la politique. Je souhaite que la politique prenne le pas. Je souhaite que non pas à 27, mais à 6, à 10, à 12, à 15, sur des projets concrets, l'immigration, la protection commerciale, l'harmonisation fiscale, nous avancions. Mais nous avancions de manière pragmatique et concrète. Il y a la possibilité de défendre un nouvel idéal européen, et cet idéal européen, il s'appuie sur des propositions pragmatiques.
Il semblerait que la vieille garde des Républicains proteste contre le jeunisme que vous incarnez. Est-ce que vous avez senti ces frictions et ces difficultés, notamment avec les plus anciens du parti, que vous remplacez de fait aujourd'hui, et avec une ligne politique on vient de l'entendre, qui va elle aussi évoluer?
D'abord, je voulais rassurer, la jeunesse est un défaut dont on se corrige tous les jours.
J'entends bien.
Donc il ne faut pas s'inquiéter, premièrement. Et deuxièmement, plus
sérieusement. Est-ce que vous voulez bien rassurer ceux qu'on appelle les chapeaux à plumes et dont on dit qu'on pourrait leur créer une sorte de parc
plus sérieusement.
De protection au sein des Républicains? Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je travaille avec tout le monde. J'ai accueilli par exemple Jean-Pierre Raffarin au Zooparc de Beauval dans ma circonscription.
Ah bah vous voyez.
J'ai été ravi de voir que Valérie Pécresse, hier matin, reprenait ma proposition de plan Marshall sur la question africaine. J'ai des échanges réguliers avec Xavier Bertrand. Je veux qu'on additionne les talents, mais il est vrai que la droite française se devait, avec Laurent Wauquiez, avec son volontarisme, avec son talent, de faire émerger toute une nouvelle génération et de démontrer aux Français qu'il existe une alternative à Emmanuel Macron.
Je le comprends très bien. Il se trouve que vous avez aussi une histoire dans votre parti et que vous avez poussé et grandi avec ces hommes. La question, c'est est-ce que vous êtes en train de les isoler dans une sorte de structure dans laquelle ils ne parleront qu'à eux? Et où est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, oui, nous avons besoin des anciens?
Je viens de vous le dire, oui, nous avons besoin, et j'échange très régulièrement avec eux.
À la tête du Parti Socialiste, M. Le Foll annonce ce matin qu'il entend porter sa candidature. Est-ce que ça vous semble une bonne chose? Est-ce que vous avez une réaction?
Je crois qu'on a assez à faire chez les Républicains pour nous reconstruire, pour me permettre de juger de l'état du Parti Socialiste. Pour autant, je souhaite que des oppositions républicaines solides puissent émerger, parce que je ne crois pas à la politique injuste d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il existe une alternative, et cette politique du faire croire plutôt que du faire, cette illusion plutôt que de l'action, m'inquiète. Et donc c'est à la droite française aujourd'hui de reprendre le flambeau des classes moyennes, des ouvriers, des employés, des agriculteurs, de tous ces Français qui ont besoin d'être entendus et défendus.
Merci Guillaume Pelletier.
Merci
dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Cyprien Signy. Cet entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr.